La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du patient, mais on dit aussi que c'est une maladie de famille, parce que finalement, eh bien, la famille, les proches s'occupent du patient. C'est eux qui veillent sur lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce n'est pas sans conséquence. Beaucoup d'aidants risquent eh bien, de faire un burn-out. Alors, comment éviter ce burn-out? Quels sont les signaux du burn-out? On va en parler avec Éric Dumas et également Mélanie Basperas. Donc Éric Dumas, qui est gériatre au Verger des Ballons, vice-président de la Fédération des Centres Mémoire et président de la Société de Gérontologie de Bordeaux et du Sud-Ouest, et Mélanie Baspera, qui est responsable des soins, co-animatrice et également des groupes des dents du Verger des Ballons. Merci beaucoup à tous les deux d'être là cet après-midi avec nous.
Merci beaucoup. Merci à la Fondation Recherche Alzheimer de nous avoir invités une année de plus. C'est toujours un plaisir que d'être parmi vous. Le professeur Planche vous a dit combien il était difficile de parler derrière le professeur Dubois. Vous imaginez combien il est outrecuidant de vouloir parler derrière les deux réunis, mais on va essayer de se mettre le plus possible à leur niveau. Donc le burn-out des aidants était le sujet du jour. Alors on va forcément faire un peu de redite par rapport à ce que vous avez entendu jusque-là. Mais comme l'a fait tout à l'heure le professeur Dubois, il me semble toujours important de mettre les choses en perspective et de voir ce qu'on a fait jusque-là pour pouvoir aider les patients et par conséquent aider les aidants. Comme le disait tout à l'heure Vincent Planche, le premier plan Alzheimer, c'était 2001-2004 sous l'égide de la présidence de Jacques Chirac. Que disait ce plan? Alors il y avait six grands items et il y en avait deux en particulier qui ont attiré notre attention, c'est structurer l'accès au diagnostic de qualité et orienter. Et on en revient totalement sur la dernière réponse de Vincent Planche. Ça a été la création à l'époque de ce qu'on appelait les consultations mémoire de proximité et des CM2R, les centres mémoire de ressources et de recherche. Et puis en 2002, il y a eu le premier recensement des consultations mémoire en France de mémoire, si j'ose le jeu de mots. Je crois que le premier hôpital de jour Alzheimer, c'était les années 80 en France, et 90, le développement des premières consultations mémoire. Même si la maladie, on le sait, le professeur Dubois a dit que ça a été une douce endormie pendant plusieurs décennies. Quand on fait une revue de la littérature qui remonte jusqu'à l'Antiquité, hein, Platon déjà décrivait ce que c'était que la démence en expliquant qu'il n'était pas judicieux de punir des vieillards qui avaient blasphémé du fait de leurs difficultés cognitives. Et Juvénal, sous l'Empire romain, disait à peu près la même chose en plaignant celui qui ne reconnaît plus sa famille, qui ne reconnaît plus ses esclaves et qui dilapide sa fortune. Le second plan 2004-2007, il y a eu pour la première fois un axe sur le médico-social. Alors, on n'aime pas trop séparer le sanitaire, le médico-social, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Vous avez tout ce qui est le médico-social qui va vous aider. Ça comprend les EHPAD, les services de soins à domicile. Et puis le côté sanitaire qui est plutôt tourné vers l'hôpital. Et en 2004, on a aussi demandé aux consultations mémoire d'avoir un vrai niveau de compétence, et c'est ce que disait Vincent Planche tout à l'heure, et qu'il y ait un véritable maillage sur le territoire. Et à ce jour, où que vous soyez, à peu près, vous avez accès à une consultation mémoire. Par exemple, pour notre département de la Dordogne, vous en avez deux, une sur Périgueux et une sur Bergerac. Le plan 2008-2012 a vu la création d'un service qu'on appelle les unités cognitivo-comportementales. J'en dirai deux mots tout à l'heure, puisque je pense que c'est un des outils qui peut aider à éviter le burn-out des aidants. Il y a eu la création du centre de référence malade Alzheimer jeune et la Banque nationale Alzheimer. Alors la Banque nationale Alzheimer n'est pas une banque dans laquelle vous iriez chercher de la mémoire au guichet. C'est une banque épidémiologique qui sert à la recherche. Il y a eu la création des plateformes d'accompagnement et de répit qui sont là aussi pour aider les aidants, et j'en dirai deux mots tout à l'heure, et la création des unités d'hébergement renforcées, qui sont des unités au sein d'EHPAD réservées à des patients qui peuvent avoir des symptômes comportementaux parfois extrêmement gênants. 2014-2019, On a souhaité améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades, assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants, et développer et coordonner la recherche. Et surtout, là aussi, valider, ce qui n'était pas tout à fait acquis, le déploiement des UCC et des UHR. Il y a eu ensuite une feuille de route maladie neurodégénérative en 2021-2022. Et il y a actuellement la stratégie 2024-2028. Il n'aura pas échappé à votre sagacité que le paysage politique est actuellement un peu agité dans notre pays. Nous avons changé de ministre plusieurs fois depuis le début de l'année. Et actuellement, la feuille de route, nous, professionnels de santé, avons travaillé, avons fait un rapport. Et c'est maintenant au gouvernement et à l'État de savoir quelles mesures il conservera. Les plateformes d'accompagnement et de répit, alors je vais aller rapidement, il y en a actuellement 220 sur le territoire, il y en a en Gironde, il y en a en Dordogne, il y en a deux également. Au départ, elles étaient faites pour accompagner une personne âgée en perte d'autonomie, une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative ou une personne en situation de handicap, quel que soit l'âge. Elle répond aux besoins d'information, d'écoute, de conseils, de relais, de formation des proches aidants pour les conforter dans leur rôle d'aidant dans une logique de proximité. Et là, vous voyez bien que nous sommes, comme l'a évoqué Vincent Planche tout à l'heure, dans la prévention de la survenue des symptômes psychocomportementaux qui vont souvent être, eux, la cause du burn-out des aidants. Quand vous ne faites qu'oublier, votre conjoint peut croire que vous êtes dans une volonté délibérée d'être pénible, mais ça ne va pas au-delà. Quand il commence à y avoir des symptômes psychocomportementaux, c'est souvent là que le burn-out des aidants va apparaître. Ils proposent des prestations de répit et de soutien. Ils offrent du temps libéré à la personne, notamment sans séparation et en intégrant la dimension du bon temps passé ensemble. C'est à peu près la même chose, je passe rapidement. Et je dis deux mots des unités cognitivo-comportementales. C'est quoi les UCC? Alors, vous en avez deux en Gironde, une sur Gradignan et une sur Libourne, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a une sur la Dordogne pour l'ensemble du territoire. Ce sont des unités de 12 à 14 lits, des unités de SMR, bon, peu importe, de ce qu'on appelait autrefois les moyens séjours, dans un environnement adapté. Donc, c'est un service qui est architecturalement adapté pour la prise en soin de patients désorientés. Et on va accueillir dans ces services des patients qui sont atteints de pathologies neurocognitives, maladies d'Alzheimer et autres, et qui ont des troubles du comportement productif, qui sont les symptômes qui vont amener rapidement le burn-out de l'aidant. Qu'est-ce qu'on entend par symptômes psychocomportementaux productifs? Les idées délirantes, les hallucinations, l'agitation, l'agressivité, les troubles des conduites alimentaires, les troubles du sommeil, parce qu'on sait très bien quand on travaille en UCC que la première cause de rupture du soutien à domicile, ce sont les troubles du sommeil. Quand le conjoint passe sa nuit à ne plus dormir et au contraire va être apathique la journée, c'est quelque chose qui va être très difficilement supportable par les aidants. Et que doit-on faire dans ces centres? C'est accueillir le patient, évaluer l'impact des symptômes à la fois chez le patient et chez les aidants, et essayer d'appliquer un programme de réadaptation qui va pouvoir permettre un retour à domicile. Et là, je dis deux mots aussi, le professeur Planche en a parlé un peu tout à l'heure. Je crois qu'il faut imaginer les maladies neurocognitives comme une spécialité à part entière de la médecine et qui finalement va regrouper trois grandes spécialités puisque vous pourrez être amené à croiser la route d'un neurologue, à croiser la route d'un gériatre, mais aussi à croiser la route d'un psychiatre. Certaines maladies neurocognitives vont débuter par des symptômes psychiatriques. Les dégénérescences frontotemporales, les maladies à corps de Lewy par exemple, sont des pathologies qui vont souvent démarrer par des symptômes psychiatriques qui vont amené en UCC et où souvent il va falloir rétablir un diagnostic. J'explique souvent aux internes que je peux croiser sur mon chemin, on ne fait pas de soins, on ne fait pas de diagnostic sans soins. Si on vous diagnostique une maladie d'Alzheimer, on va faire derrière un projet de soins avec vous, mais on ne fait pas non plus de soins sans avoir posé un diagnostic. Et j'en reviens sur ce que disait Vincent Planche, il est parfois utile de revoir un diagnostic. On est vraiment dans une spécialité où rien n'est écrit dans le marbre. Et je pense à, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de l'expertise du CM2R de Bordeaux en réunion clinique. Et le dernier patient que j'ai eu l'occasion de présenter et que j'ai soumis à l'avis du professeur Planche, en fait, n'avait, malgré ses pertes de mémoire, probablement pas une maladie d'Alzheimer, mais une épilepsie. Et ce n'est pas du tout la même chose que de soigner un épileptique avec un traitement qui va pas le guérir, mais faire disparaître complètement les symptômes, et une maladie neurocognitive qui, elle, va évoluer dans le temps. Et dernièrement, qu'est-ce qui va aider à prévenir le burn-out des aidants? Il y a bien évidemment tout le tissu associatif qui s'est créé au fur et à mesure des années. Les associations, alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, je m'en excuse par avance, mais vous avez l'association France Alzheimer, France DFT, A2MCL pour les patients atteints de maladies à corps de Lewy, France PSP, l'Association française des aidants, bien évidemment les fondations et en particulier la fondation Recherche Alzheimer qui œuvre pour la maladie et donc in fine pour les aidants. Et que va proposer ce tissu associatif? De l'information, de la formation, de l'écoute, du répit, des activités. Et c'est en ça qu'on peut au mieux prévenir le burn-out des aidants. Et je laisse la parole à Madame Baspera.
Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre un petit peu les définitions par rapport au burn-out. Qu'est-ce qu'un burn-out? Donc, c'est un état de fatigue intense et de grande détresse. Qui sont les aidants? Alors ça, c'est toujours une question extraordinaire. La loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015 a essayé de statuer. Donc, est considéré comme proche aidant son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, ou son concubin, un parent ou un allié défini comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle, ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Une fois qu'on a lu ça, on voit qu'il n'y a pas un aidant, mais qu'il y a tous ces aidants. Plus de 9 millions de personnes en France, du coup, sont concernées par cette situation d'aidant. Les signes d'alerte. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir ce côté pratico-pratique. Qu'est-ce qui peut être pour nous professionnels et pour vous aidants les signaux d'alerte et dire là, je ne vais pas y arriver seule et j'ai besoin de m'entourer. Un épuisement physique qui peut arriver dans l'accompagnement. Un épuisement mental. Ben oui, quand on répète 10 fois la même chose dans l'espace de 3 minutes, il se peut qu'on finisse par être épuisé. Perte de lien social et d'isolement social, parce qu'il peut être difficile de sortir et de s'ouvrir à l'extérieur quand déjà le quotidien à la maison est difficile. Négligence et laisser aller. Rupture de soins pour les dents, qui va se consacrer effectivement uniquement à son proche. Qualité de sommeil dégradée. Alors, le professeur Planche en a parlé tout à l'heure, le docteur Dumas parlait aussi. Effectivement, quelqu'un qui ne dort plus ne va pas pouvoir être aidant en journée si la nuit n'est pas réparatrice. Priorisation de la situation de l'aidé aux dépens de celle de l'aidant. Ça peut entraîner des difficultés financières et des tensions intrafamiliales, conjugales, parents, enfants, fratrie. Parce qu'effectivement, être aidant, on n'a pas un schéma prédéfini de l'aidance. On a aussi des patients extrêmement jeunes qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer. Et donc, les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. On peut avoir des aidants qui sont encore en situation de travail et donc pour lesquels le quotidien peut être difficile avec des insomnies associées. Le rôle prépondérant des aidants. Que faire pour les aider et rompre l'isolement du quotidien? Alors, on a parlé en long, en large, en travers, mais le diagnostic, c'est déjà la première aide. Quand on erre et qu'on ne sait pas vraiment vers où aller, c'est difficile d'apporter de l'aide et des choses précises. Donc, le diagnostic, c'est important. Ensuite, une prise en soins adaptée avec un traitement médicamenteux, mais aussi tout ce qui est traitement non médicamenteux, des lieux d'accueil. On verra un peu après comment est structurée notre filière pour donner un exemple du maillage possible. Un suivi médical régulier, une évaluation et une prise en compte des besoins du couple aidant aidé. Donc ça, par rapport à la définition, effectivement, on n'a pas un seul type d'aidant, donc vraiment prendre en compte leurs besoins. orienté vers des professionnels adaptés, donc dispositif d'accompagnement, l'assistante sociale, la plateforme de répit, informé sur le tissu associatif, prévoir les formations et les informations de TP aidant aider, les formations des professionnels aussi qui vont intervenir auprès de ce public-là. Donc là, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est notre filière. On a donc une consultation mémoire de territoire, un centre de jour avec un accueil thérapeutique de jour pour des patients âgés et un accueil thérapeutique de jour pour des patients jeunes, donc dont les signes de la maladie sont arrivés avant 65 ans. Une plateforme d'accompagnement de répit, un dispositif d'éducation thérapeutique, une UCC, un EHPAD avec des lits identifiés du HR et puis après de la consultation avancée. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est parce que en complément de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on a décidé de créer aussi un groupe de parole pour les aidants et les aidants de toute la filière, peu importe le stade de la maladie et où les personnes sont accueillies. Donc comme objectif thérapeutique, c'est le soutien psychologique, sortir de l'isolement, créer du lien, valoriser, reconnaître le rôle de l'aidant, orienter à nouveau vers les structures, vers les instances, les associations adaptées, informer sur les maladies neurocognitives et la communication adaptée et favoriser les échanges professionnels et l'alliance thérapeutique. Donc voilà, c'est un temps de rencontre du coup qui se passe au cœur de l'EHPAD. C'est un vrai choix de faire venir les aidants au cœur de l'EHPAD pour démystifier un peu ce qu'est l'EHPAD. Donc ça permet de rentrer dans l'établissement sans en avoir d'obligation et de voir un peu comment ça fonctionne et quelle est la prise en soin et voilà, de créer du lien entre chacun. Les thèmes des échanges sont toujours proposés par les aidants. Donc ce qui revient souvent, c'est comment faire ce qu'on appelle le deuil blanc, c'est-à-dire je suis en face de mon proche, mais je ne le reconnais pas, ce n'est pas la personne que j'ai aimée pendant des années, elle est différente, et comment on s'adapte à ça, comment je communique avec lui. Mon mari n'a jamais été quelqu'un d'odieux comme ça, et là, il se présente sous ce schéma-là, je ne sais plus que faire. Voilà, c'est arrivé à échanger, donc je coanime ces ateliers avec un des psychologues de l'établissement. Voilà un petit peu sur l'exemple de ce qu'on peut proposer aussi pour essayer d'éviter le burn-out des aidants. Merci de votre attention.
Merci bien d'avoir illustré tout ça. C'est plus concret. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mélanie ou à Eric, justement suite à leur intervention? Tout a été clair et parfaitement clair. Yeah.
L'accueil sur la plateforme d'accompagnement, oui, bien sûr.
Alors il y a deux choses. Les accueils de jour, ça n'est pas de l'hôpital de jour. Vous savez que si vous avez une pathologie psychiatrique, vous êtes pris en charge en hôpital de jour intégralement avec un accompagnement qui est financé par l'assurance maladie. Quand vous avez une maladie neurocognitive, vous relevez d'un accueil de jour. Donc il y a un reste à charge, il y a un financement déjà par l'ARS et par le conseil départemental. Et le département fixe le prix de l'accueil de jour qui peut être cofinancé par le biais d'une demande d'APA. Donc en Dordogne, le prix de l'accueil de jour est de 52 euros, si je ne dis pas de bêtises. La plateforme de répit, ça c'est entièrement financé par l'ARS. Donc il y a à la fois un soutien psychologique des aidants, pris en charge par ce financement-là, et il y a également la mise en place d'heures de répit, où nous mandatons et nous finançons des auxiliaires de vie qui vont s'occuper du patient pendant que l'aidant va faire autre chose ou va faire rien aussi. C'est l'idée du répit. La consultation mémoire, c'est financé par des fonds FIR. Donc, il n'y a pas de facturation à l'activité et ça ne coûte rien aux patients. L'UCC, c'est de l'hospitalisation. Donc, c'est pris en charge comme si vous êtes hospitalisé dans n'importe quel autre service. Et l'EHPAD, l'UHR, c'est le reste à charge de tout EHPAD quand vous êtes pris en soin, avec la possibilité, nous, dans notre filière, d'aide sociale, où le département va pouvoir financer le reste à charge si vous n'arrivez pas à le faire. Et je ne sais pas si ça a bien répondu à la question, parce que je ne me souviens plus quelle était la question.
Est-ce que c'était gratuit ? On va faire des biomarqueurs. Il va y avoir problématique.
Sur la plateforme,
c'était ça. Allez.
Sur la plateforme... Oui, l'accès à la plateforme est gratuit pour les aidants. Et donc, il y a à la fois un soutien psychologique qui est proposé, des heures de répit et également un accompagnement pour les démarches administratives avec une assistante sociale. Voilà. Et ça, ce n'est pas notre fonctionnement propre, c'est le fonctionnement des plateformes d'accompagnement et de répit.
Je mets juste un bémol, ce n'est pas gratuit, c'est pris en charge. Pour répondre
c'est
à la question du professeur Dubois, il y a différents professionnels qui vont intervenir, quelle que soit la filière. Donc sur le plan médical, nous sommes des gériatres, mais il y a à la fois des psychologues, des neuropsychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des cadres de santé, il en faut aussi, des infirmiers, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des ASH, des art-thérapeutes, et on a fait à peu près le tour de la filière.
Très complet. Attendez, Manon, il y a le micro qui va passer juste là devant.
Si, je voulais simplement savoir combien vous aviez de patients dans votre établissement. Je n'ai pas retenu si vous l'avez déjà dit.
Alors, là aussi, on va répondre par niveau. Sur la consultation mémoire, nous suivons à peu près 1100 patients par an. Et il y a à peu près 450 nouveaux patients qui consultent chaque année. Ça, c'est la consultation. Sur l'accueil, le centre de jour, nous avons 12 patients par jour âgés sur un accueil de jour et 10 sur l'accueil de jour patients jeunes. La plateforme de répit, en moyenne, accompagne 260 à 280 couples aidants aidés. L'UCC, sur les 12 lits, nous avons en moyenne 190 patients par an qui en bénéficient. Et sur l'EHPAD, il y a 52 places, dont 14 en UHR, ce qui fait à peu près 70, j'ai du mal à dire résidents, parce qu'ils arrivent chez nous. La spécificité, c'est que nous n'accueillons que des patients atteints de pathologies neurocognitives et avec en priorité des symptômes psychocomportementaux. Donc on n'arrive pas forcément par hasard dans cet EHPAD. Et nous sommes sur à peu près 70 personnes qui vont bénéficier de l'EHPAD sur une année.
Il y avait une question tout au fond et après, on va découvrir le livre de Pierre-Nicolas Marquès.
Oui, bonjour. Sandrine Berneron de l'Action sociale Agir-Carco. Vous avez fait part à plusieurs reprises de reste à charge éventuelle, notamment pour les solutions de répit, accueil de jour, hébergement temporaire. Voilà, il faut savoir que les caisses de retraite complémentaires, dans le cadre de leur action sociale, peuvent intervenir aussi sur les financements de reste à charge pour soutenir les aidants, qu'ils soient actifs ou retraités. Voilà, donc ça, c'est une solution de financement complémentaire. Donc n'hésitez pas à solliciter les caisses de retraite.
Merci de la précision. Je l'avais effectivement, oui, vous avez tout à fait raison de le préciser.
Merci beaucoup encore, Eric Dumas et Mélanie Baspera, d'être venus.